Il est midi à Paris, 10h en temps universel. Vous écoutez RFI.
Jean-Baptiste Marot.
Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi 12 octobre, il y a d'abord l'Irak où le plus haut dignitaire chiite du pays accuse le gouvernement d'être responsable du bain de sang de la semaine dernière lors des grandes manifestations qui ont touché le sud du pays. Dans son prêche du vendredi, l'ayatollah Ali Sistani a donné 2 semaines aux autorités pour faire connaître le résultat de leurs enquêtes. À la une également cette incertitude qui plane sur la ville de Ras Al Ain dans le nord de la Syrie. Ankara affirme ce matin avoir pris la cité, mais les milices kurdes qui la contrôlent démentent. Et puis en France, qui est vraiment l'homme arrêté hier à l'aéroport de Glasgow? S'agit-il bien de Xavier Dupont de Ligonnès, recherché pour le meurtre de sa femme et de ses 4 enfants en 2011? Une source proche de l'enquête affirme ce matin qu'un doute subsiste après comparaison à des empreintes digitales. En Irak, la plus haute autorité chiite du pays accuse donc le gouvernement d'être responsable des violences et de la répression sans pitié qui s'est abattue sur les manifestants descendus dans la rue pendant 6 jours la semaine dernière dans les grandes villes du sud du pays. Dans son prêche du vendredi, l'ayatollah Ali Sistani a tenu le gouvernement et les forces de sécurité pour responsables de l'effusion de sang, je cite, effusion de sang qui a fait 100 de morts et des milliers de blessés début octobre. Spontané, le mouvement était né pour demander des mesures sociales avant de prendre une tournure beaucoup plus politique. Précision de la correspondante de RFI à Bagdad, Lucille Wasserman.
2 semaines, c'est le temps que donne l'ayatollah Ali Sistani au gouvernement pour faire la lumière sur les terribles violences qui ont secoué l'Irak au début du mois. Comme lors de chaque événement dans le pays, le prêche hebdomadaire de ce chef religieux est toujours très attendu et scruté par les Irakiens. La semaine dernière, il avait déçu une grande partie d'entre eux en ne condamnant pas fermement les violences. C'est désormais chose faite. Le gouvernement et les forces de sécurité sont responsables de l'effusion de sang, a-t-il écrit ce vendredi dans son discours, lu par ses représentants à Karbala, dans le sud du pays. Ali Sistani tient notamment pour responsable le gouvernement, dit-il, des nombreuses victimes tombées sous les tirs de snipers. Il a également dénoncé les attaques contre des médias irakiens et condamné les multiples menaces reçues par des manifestants, ainsi que les enlèvements ou les assassinats, qui se sont multipliés dans les rues de la capitale irakienne. Un cycle de violence que le gouvernement doit à tout prix briser, et ce, au plus vite, a-t-il dit. Après une semaine sanglante où plus de 100 personnes ont été tuées, selon les chiffres officiels, les autorités ont reconnu un usage excessif de la force par l'armée contre les manifestants. Du reste, ils ont annoncé avoir ouvert plusieurs enquêtes sur les violences qui ont éclaté à travers le pays. Aujourd'hui, le calme est revenu dans les rues de Bagdad, moins par satisfaction des mesures annoncées que par crainte de représailles selon les manifestants. Lucille Wasserman, Bagdad, RFI.
Au 4e jour de son offensive contre les milices kurdes du nord de la Syrie, la Turquie annonce ce matin avoir pris la ville de Ras Al Ain. L'information est donnée par le ministère turc de la Défense, mais les forces kurdes démentent, je vous le disais. Mercredi, Ankara a déclenché, je vous le rappelle, une vaste opération militaire le long de sa frontière pour y créer une zone tampon et reléguer à 30 kilomètres de là les FDS qu'elle qualifie de terroristes. Opération qui a provoqué, vous le savez, un énorme tollé sur la scène internationale. Des négociations en vue d'éviter un autre deal à la fin du mois lors du divorce entre Londres et Bruxelles vont avoir lieu tout le week-end après un petit déjeuner qualifié de constructif hier entre Michel Barnier et le secrétaire d'État britannique au Brexit. Les 27 ont donné leur feu vert à leur négociateur en chef pour intensifier les pourparlers avec le Royaume-Uni pendant tout le week-end. Un bilan des discussions sera fait lundi. Le week-end qu'Emmanuel Macron va lui aussi mettre à profit pour s'entretenir avec la présidente de la future Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la chancelière allemande Angela Merkel. 48 heures après le camouflet infligé à la France par les eurodéputés qui ont retoqué la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire au marché intérieur jeudi, le président français voit sa position affaiblie sur la scène européenne et cherche la riposte. En coulisses d'ailleurs, les grandes manœuvres ont déjà commencé à l'Élysée pour relever la tête avec pour enjeu le maintien de l'influence française à Bruxelles, Anthony Lattier.
Officiellement, Emmanuel Macron l'a dit ce vendredi, il ne veut pas laisser s'installer une crise politique au sein de l'Europe. Mais en coulisses, s'est engagé un bras de fer, sans doute de longue haleine. Ils n'ont pas voulu notre candidate, eh bien, ils vont attendre, lâche une source diplomatique qui ajoute « on repart de zéro ». Selon nos informations, Emmanuel Macron ne veut pas proposer de nouveaux candidats tout de suite. Il veut cette fois de vraies garanties de la part de la future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et de la chancelière allemande Angela Merkel, qu'il recevra ce dimanche à l'Élysée. Pas question de se laisser faire par la droite européenne du groupe PPE, accusée par la Macronie d'avoir fait capoter la nomination de Sylvie Goulard. Ce que veut à tout prix conserver Emmanuel Macron, c'est le méga portefeuille qui devait être attribué à la France et qui lui garantit une influence considérable puisqu'il comprend la politique industrielle, le numérique, la défense et le spatial. Se faire rogner ce portefeuille par les eurodéputés serait un nouveau camouflet pour Emmanuel Macron.
L'actualité en France dominée aussi par l'arrestation d'un homme hier soir à l'aéroport de Glasgow. Il est présenté comme Xavier Dupont de Ligonnès, l'individu au cœur de l'une des énigmes criminelles les plus mystérieuses qu'a connu le pays ces dernières décennies. Xavier Dupont de Ligonnès est accusé d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes en 2011 avant de se volatiliser dans la nature. Malgré des empreintes digitales correspondantes, un doute demeure toutefois ce matin sur la véritable identité de la personne interpellée ce vendredi soir en Écosse. C'est ce qu'affirme une source proche des investigations, des vérifications sont en cours. Les enquêteurs français sont attendus à Glasgow aujourd'hui. Toujours en France et un peu partout dans le monde, les militants écologistes du mouvement Extinction Rébellion poursuivent leur semaine d'action. À Paris, ils bloquent actuellement la circulation tout autour de l'Assemblée nationale. Cette semaine, les membres britanniques, cette fois de l'organisation, ont eux aussi bloqué une partie de l'aéroport d'affaires de City dans l'est de Londres. Des militants qui poursuivent leurs opérations tous azimuts malgré plus d'un million d'arrestations enregistrées depuis le mois d'avril dernier à Blajonaïdi.
Radicaux mais pas violents. Alors que le quartier central de Westminster reste bloqué par des manifestants, d'autres poursuivent ailleurs l'action dans la bonne humeur. Devant un hôtel de luxe, ils interpellent en musique les convives d'une soirée organisée par un groupement de fabricants de plastique. À la manœuvre notamment, HRH, c'est le nom que s'est donné cette militante.
On est là pour leur rappeler que le plastique tue, qu'il faut éliminer son usage. On ne peut pas le recycler plus de trois fois. C'est l'une des industries qui génère le plus de profits.
En ces temps où au Royaume-Uni, c'est aussi la menace d'un Brexit sans accord qui occupe le champ médiatique, HRH n'hésite pas à lier Brexit et environnement.
Quand on dit Brexit, c'est quoi? C'est fermer les portes, notamment aux gens à qui on a causé des problèmes avec notre usage immodéré du plastique et notre façon ici en Occident de traiter l'environnement. Pour moi, le Brexit permet de maintenir ces gens dehors.
Une fois l'action terminée, aucun dégât, juste un léger bouchon qui s'est formé pour les automobilistes, ils s'en dégagent avec le sourire. Blajonaïdi, Londres, RFI.
Aux États-Unis, Donald Trump affirme avoir conclu un accord partiel mais très important avec la Chine dans sa guerre commerciale. Avec Pékin, on n'en connaît pas encore tous les détails, mais il porterait entre autres sur d'importants achats de produits agricoles par les Chinois. La rubrique sport pour finir avec du foot d'abord et la difficile victoire de l'équipe de France en Islande hier. Score final 1-0, un but inscrit sur pénalty par Olivier Giroud. Un succès précieux, certes, il permet aux joueurs de Didier Deschamps de prendre une sérieuse option sur la qualification à l'Euro 2020. Mais un succès qui pose aussi de nombreuses questions, car dans le jeu, eh bien, les Bleus n'ont pas vraiment rassuré Antoine Grenier.
L'histoire se souviendra qu'il a fallu 6 ans pour qu'une équipe vienne battre l'Islande dans un match d'éliminatoire. Et cette équipe, c'est la France. L'histoire oubliera, en revanche, la prestation tricolore. Les Bleus, privés de 5 champions du monde, n'ont emballé la rencontre qu'à 2 minutes de la mi-temps, puis pendant un quart d'heure au retour des vestiaires. Suffisant toutefois pour obtenir un pénalty pour une faute sur Antoine Griezmann. Les supporters islandais ont trouvé la décision de l'arbitre litigieuse. Le Barcelonais, non.
Ouais, sûrement. Après, sûrement pour ça, les sifflets. Mais comme j'ai dit, c'est un gros coup et voilà, pour moi, il y avait faute, et l'arbitre, pour l'arbitre aussi, et non, pour, tant mieux pour nous.
Olivier Giroud, d'un contre-pied parfait, permet aux Français de s'imposer et de rêver, pourquoi pas, d'obtenir le ticket pour l'Euro dès ce mois d'octobre. Didier Deschamps, le sélectionneur.
Ce match de lundi, grâce à cette victoire ce soir, peut être décisif. En gagnant, il nous ouvrirait la porte des qualifications dès lundi, donc on sait à quoi s'attendre.
Lundi, au Stade de France, ce sera face à la Turquie. Antoine Grenier, Reykjavik, RFI.
Et puis un mot encore.
Radio G, 101.5 FM.
Thank you. posé dans un canapé roule hashish. Télé full HD, tout le monde est assis. Je regarde la télé, je me rends compte que la vie s'affile. Un jour j'aurai des gosses, faudra protéger ma fille. Ma sœur a mis sa voix sur la prod, ça me calme. Papa écoute le son avec le sourire. Maman écoute le son avec le casque et le mal s'évapore. Certaines arrivent à se reconnaître quand je parle cœur. J'ai un peu morflé, ma vie sentimentale est mortière quand j'ai décidé de la poser sur Moral 2. La vie est douce, la pente est raide et parfois glissante. Certains arrivent à s'élever comme de la vapeur. J'ai un peu morflé, mais pas de quoi en faire un film. Je suis dégoûté, mais très loin d'être anéanti. Tout en laissant faire ce qu'on voulait pourtant cacher. Chérie, s'il fallait se taire, alors j'ai vraiment tout gâché. J'aimerais que tu saignes. À mes propositions, éloignons-nous d'ici. Prends ça comme une mission, devenons invisibles. Je lui ai dit à tout à l'heure. Elle a pris ça comme un missile.
Covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. As I call it quits, I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the crack for blood. Multiplied by five.
sung round the money tree. The stunning documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round listening to the score. Or maybe I just imagined it all. I've played to quiet rooms like this before. Bear with me, man, I lost my train of thought.
G. 101.5 FM.
Radio G, www.radio-g.fr. saw how come you didn't wanna go full and if it was though when they held my dark, dark drum behind the help of the soulless stones and when they caught me down, they caught me down, they realized my
Radio G. www.radio-g.fr.
Side just preen it, whoa. Time goes by, yo, we all wanna fly. When I die for your flight, that's leaving.
Nah.
You walk, then you drive, then fly. It's part of the life. Park and shop in your sight. Fast in your mind. If you drive, move fast every time. Pass and ask in a sign. Might be slightly caught in the vibe. I mean, I see karma and a hype. Slow your roll, I know you rode it. Highly likely karma and a hype.
Sometimes life goes.
Side like a side note. Drive slow, drive like every light goes. Take time with your mind, though. Make your mind race. Try paving your right way on the right road. Safety and the hype, it make you alive, though. Truth be told. Take RVO to your drive and you're moving home if you're DIE. That's where you left with, that's where you get if you need high speed. I can get urgency if you're an emergency, that is a green light, see? Risk it all if it urgent, urgent. Fight the law if it worth it, worth it. Everything have a consequence when them write you off in a cursive one.
Everybody age up in the fast lane till it don't pass no more. Speeding never last no more.
I can tell that everybody hitch up in the fast lane. Shot caught, no shot no more. People don't even walk no more. Oh, oh, oh.
Imaginaire, c'est le rendez-vous incontournable pour les amoureux et amoureuses de la pop culture. Un mardi sur deux à 21h, on parle littérature populaire, mais aussi jeux, ciné, séries, avec des chroniques, des interviews, sans oublier les invités et l'actualité. Imaginaire, c'est un mardi sur deux à 21h sur Radio G 101.5.
We'll be right back. Radio G, 101.5 FM.
101.5 FM.